Influence et manipulation. Robert Cialdini. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je me suis lancé un défi un peu bizarre. Lire un livre chaque jour pour améliorer ma vie. Et chaque semaine, je partage mes résumés avec vous. Cliquez ici pour recevoir mes prochains résumés gratuitement par email. Bonne lecture. Les raccourcis de notre jugement peuvent se retourner contre nous. Le comportement animal paraît parfois étrangement simpliste. Prenez la dinde, par exemple, c'est une bonne mère pour ses poussins. Elle s'en occupe bien tant qu'ils émettent le chip-chip-chip caractéristique des poussins dindonaux. Elle les laissera, voire pire, les éliminera s'ils n'émettent pas ce son. Si on met la dinde en présence d'un putois, son ennemi héréditaire, elle l'attaque, même si c'est un putois empaillé. Mais si un magnétophone caché dans le putois empaillé émet les chip-chip-chip caractéristiques, elle le prend sous son aile. Le comportement de la dinde semble alors ridicule, mais en fait, le son caractéristique des poussins devient un raccourci pour que la mère dinde puisse identifier ses rejetons rapidement. Le putois n'est plus un putois, mais un poussin. Les animaux ne sont pas les seuls à prendre ces schémas psychologiques des raccourcis. Nous aussi, humains, utilisons les raccourcis, car dans le monde complexe où nous vivons, il nous est souvent impossible d'analyser toutes nos décisions. Comme des scientifiques peuvent tromper une dinde avec un putois empaillé, des professionnels de la persuasion, publicitaires, vendeurs, escrocs, peuvent nous tromper en utilisant des raccourcis contre nos intérêts. Ils utilisent ces techniques psychologiques pour que nous accédions à leurs propositions, le plus souvent pour nous vendre un produit. Un des raccourcis les plus utilisés, un prix élevé égale bonne qualité. Dans l'esprit des gens, le stéréotype « plus le prix est élevé et plus les produits doivent être de qualité » est ancré inconsciemment. C'est ainsi que dans les boutiques de souvenirs, on vend des pierres semi-précieuses en montant les prix plutôt que de les descendre. Mais à cause de la complexité de nos vies, nous devons apprendre à gérer les raccourcis que nous prenons et nous défendre contre les manipulateurs qui sont passés maîtres dans l'art d'utiliser les raccourcis pour mieux nous tromper. Comme la pauvre dinde du début. Les humains ont un irrépressible besoin de rendre service. Si quelqu'un nous a rendu service et que nous ne lui retournons pas le service, psychologiquement, nous allons nous sentir très mal, principalement parce que la société est très dédaigneuse de ce genre de comportement ingrat. De nombreuses expérimentations ont montré que les gens préféreraient rendre plus que de se sentir ingrat. Un chercheur, Joe, a fait l'expérience en achetant une canette de coca à 10 cents à des sujets, comme si c'était une faveur spontanée. Et quand plus tard, il leur demanda de lui acheter un billet de tombola, en règle générale, ces sujets lui amenaient des tickets de tombola de 50 cents, soit 5 fois le prix du coca qu'il leur avait offert. Évidemment, la possibilité d'abus est flagrante dans ce genre d'expérience, car le chercheur a délibérément choisi les sujets de l'échange de la dette, le coca et le billet de tombola. Cependant, c'est une tactique commune. Prenez l'organisation Hare Krishna et cette habitude qu'ils ont de vous donner des fleurs dans la rue. C'est une tactique pour que les gens se sentent en devoir de leur donner en retour. Quant à la solution facile, pour ne pas céder à la tentation de retourner la réciproque, de refuser toute faveur, tout service, vous risquez de vite devenir un ermite. Cherchez plutôt à identifier les tentatives de manipulation, mais ne refusez pas un service quand il est proposé de bon cœur. La tactique du plus pour le moins est une stratégie puissante pour détourner l'attention. Comme nous sommes naturellement enclins à retourner un service, on se sent quelquefois obligé de faire des concessions. L'exemple des scouts, qui tentent de vous vendre un billet de tombola à 5 $, puis qui finalement reviennent à la charge avec un bonbon à 1 $, est l'exemple parfait de la stratégie du plus pour le moins. C'est ce qu'on appelle aussi le principe du contraste. Lorsque deux objets nous sont présentés l'un après l'autre, la différence du second sera encore plus flagrante si on le présente après. Dans le cas de nos scouts, le bonbon à 1 $ paraîtra ridiculement bon marché après le ticket de tombola. La tactique du plus pour le moins a fait tomber un président dans le fameux scandale du Watergate. En 1972, il était clair que le président Nixon allait être réélu. C'est alors qu'un homme appelé Gordon Liddy a manœuvré pour convaincre le comité républicain de réélection pour qu'on lui donne 250 000 $ afin de cambrioler les bureaux du Parti démocratique. C'était a posteriori très culotté de sa part. Mais ce dernier a utilisé la tactique du plus pour le moins. Il a commencé par suggérer un projet pour 1 000 000 $, incluant une agression, un enlèvement et des prostituées. Ces projets paraissaient tellement scandaleux aux membres du comité et tellement inconcevables qu'ils se laissèrent convaincre quand Gordon Liddy leur proposa quelque chose de plus simple comme le cambriolage. De plus, comparé à 1 000 000 $ du départ, 250 000 $ paraissait une aubaine. Il en résulta le scandale qu'on connaît, après que les cambrioleurs furent pris en flagrant délit, ce qui obligea Nixon à démissionner. Quand les opportunités semblent rares et uniques, on les désire encore plus. Une des puissantes influences qui nous pousse à passer à l'acte, c'est la rareté de l'offre. Quelque chose qui est disponible pendant un temps limité semble tout d'un coup prendre de la valeur. Et ceci parce que les gens n'aiment pas perdre une bonne affaire. C'est donc une stratégie maintes fois utilisée dans la vente par les publicitaires. Dernière chance, plus que 2 jours avant, profitez-en avant que. Une enquête a montré que lors d'une vente de viande pendant un temps limité, les participants avaient acheté 3 fois plus que d'habitude. Et plus intéressant, cet effet fut décuplé quand les gens apprirent qu'ils étaient privilégiés, car peu étaient au courant de cette vente. La rareté de l'offre et de l'information combinée poussèrent les clients à acheter 6 fois plus de viande que ne l'auraient fait les mêmes clients sans limite de temps. La rareté de l'offre devient très puissante sous 2 conditions. La première, nous désirons plus de choses si ces choses deviennent rares soudainement. C'est aussi pourquoi les révolutions se fomentent quand les conditions de vie se détériorent brusquement, plutôt que dans des conditions de disette permanente. La deuxième, la compétition nous pousse à agir. Que ce soit pour des ventes aux enchères, pour conquérir un amour ou pour acquérir une propriété, de savoir que l'on peut laisser cette opportunité à un rival nous pousse à nous surpasser. C'est pourquoi les agents immobiliers vous diront toujours lors de la vente d'une propriété qu'ils ont plusieurs acheteurs très intéressés, que cela soit vrai ou pas. Devant la rareté, demandez-vous toujours si le profond désir que vous exprimez face à quelque chose provient d'un besoin nécessaire ou d'une irrationnelle envie de le posséder. Quand la rareté est engagée contre nous, la réponse est souvent la dernière. Des objets ou des informations interdites sont perçus encore plus désirables. Il y a sûrement une vérité dans le vieil adage qui dit que les gens veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Par exemple, quand l'administration du comté de Dade en Floride déclara les lessives contenant du phosphate illégaux, non seulement les habitants commencèrent à amasser et à faire de la contrebande de lessive, mais ils trouvèrent que les lessives avec du phosphate étaient bien meilleures qu'avant. Cet effet n'est que le résultat de ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent. Les gens haïssent perdre les bonnes affaires. Il en va de même, et encore plus, quand quelque chose est interdit. Les parents en font l'expérience chaque jour avec leurs enfants. Un jouet devient plus attractif lorsqu'on interdit de jouer avec, même si ce dernier moisissait depuis des lustres dans le coffre à jouets. Le problème se pose donc aussi dans le monde des adultes, notamment avec la censure. Parce qu'une information est interdite, elle prend soudain plus de valeur. Une étude montra que quand on annonça à des élèves que les discussions dans les dortoirs allaient être interdites, les élèves devinrent tout d'un coup bienveillants envers les bavardages dans les dortoirs, même s'ils n'en avaient jamais entendu. De même qu'à la cour des tribunaux, les jurés sont plus disposés à accorder plus de dommages et intérêts quand ils savent qu'une compagnie d'assurance va payer. Et cela même si le juge insiste sur le fait qu'ils doivent ignorer que l'accusé a une assurance. Le fait d'avoir accès à une information interdite ou censurée les pousse à réagir de manière excessive, comme un jouet interdit est plus attractif pour un enfant. Être raccord entre ses mots et ses actions est presque une obsession humaine. Quand des vacanciers sont témoins sur la plage d'un vol de portable sur la serviette d'un baigneur, seulement 20% réagissent. Mais si le propriétaire de la serviette demande aux gens voisins de surveiller ses affaires pendant qu'il va se baigner, 95% deviennent vigilants et poursuivent le voleur si besoin, simplement par désir d'être en phase avec leurs promesses. Mais qu'est-ce qui nous pousse à être raccord ? La réponse est simple, la responsabilité. Des recherches montrent que lorsque nous avons pris l'engagement d'être responsables par des mots ou des actions, nous désirons être plus que tout raccord avec notre image. Et des responsabilités prises en public sont encore plus puissantes que n'importe quelle promesse. Un juré d'assises est par exemple très difficile à fléchir après qu'il ait ouvertement donné sa sentence. Autre exemple, durant la guerre de Corée, des interrogateurs chinois ont obtenu de prisonniers américains qu'ils signent des déclarations inoffensives, telles « l'Amérique n'est pas parfaite ». Mais quand cette déclaration fut lue dans le camp des prisonniers, celui qui avait signé fut perçu comme un collabo par ses compatriotes. Étonnamment, le prisonnier commençait à se voir lui-même comme un collabo et par conséquent à se rapprocher des Chinois. En fait, il ajustait son image pour être raccord avec lui-même. La technique largement connue de l'engagement successif profite du fait que même des petites promesses affectent notre image. C'est pourquoi les vendeurs utilisent beaucoup cette technique. Lorsqu'ils veulent faire signer à un client un gros contrat en le faisant s'engager sur de petites responsabilités, ils préparent le terrain pour la signature globale. Faire le choix de se battre pour quelque chose génère des changements intérieurs. Des tribus africaines aux étudiants universitaires américains, quand un nouveau membre tente d'accéder au groupe, les rites d'initiation sont communément barbares et quelquefois entraînent la mort. Des efforts pour juguler de telles pratiques brutales se heurtent souvent à une résistance farouche. Pourquoi ? Parce que les groupes savent que si les gens ont peiné à y arriver, ils attribueront plus de valeur au fait d'avoir réussi. Plus l'effort est difficile, et plus les membres sont soudés au groupe. Les bizutages d'étudiants se transforment souvent en initiations plus ou moins dégoûtantes, comme changer les bassins des lits des malades. Ceci parce que le groupe veut que le nouveau membre ne se trouve pas d'excuses extérieures, mais qu'il investisse son comportement dans le rite décidé par le groupe. Des recherches ont montré que de tels choix internes produisent des changements durables chez les individus en comparaison des changements poussés par une pression extérieure. Dans le monde professionnel, les vendeurs essayent eux aussi d'obtenir ces changements intérieurs. Prenons l'exemple du vendeur de voitures d'occasion qui fait une offre de prix tout à fait incroyable sur un modèle, si bien que le client décide de l'essayer tout de suite. Le vendeur sait que durant l'essai, d'autres arguments en dehors du prix vont se rajouter, comme le kilométrage modéré, la couleur des sièges, etc. Si à la dernière minute la superbe offre du départ devient moins intéressante, voire carrément chère, à cause d'une erreur de la banque, le client se rétracte rarement car il a changé intérieurement, notamment pour les arguments qui se sont ajoutés durant l'essai. Devant l'incertitude, nous nous accrochons aux preuves sociales. Le principe des preuves sociales montre que nous prenons souvent nos décisions en fonction des décisions des autres. Ce principe était utilisé pour nous manipuler, par exemple dans les émissions de TV, où l'on entend des rires artificiels pour nous faire croire que la blague était amusante. C'est vrai aussi à l'église, où l'on glisse dans les paniers pour la quête des billets, afin de nous faire croire que tout se donne. La preuve sociale est d'autant plus forte que l'incertitude règne. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour une jeune femme, Kitty Genovese, poignardée à mort au pied de son immeuble à New York en 1964. Le plus choquant de l'histoire, c'est que l'attaque a duré plus d'une demi-heure avec 38 personnes témoins depuis leur appartement. Mais personne n'est intervenu et encore moins n'a prévenu la police. Cette passivité est due à deux facteurs. Le premier, quand trop de personnes sont impliquées, cela diminue la responsabilité personnelle. Le deuxième, dans un environnement urbain, il y a tellement de choses incertaines que cela diminue la responsabilité. Les gens dans ce cas regardent d'abord ce que font les autres avant de faire eux-mêmes. Dans le cas de cette femme, personne n'ayant vu bouger personne, chacun pensa que l'inaction était la bonne approche. En conséquence de ces faits, si vous êtes vous-même impliqué dans une situation d'urgence au sein d'une foule, avisez une personne individuelle plutôt que le groupe pour demander de l'aide. Ainsi, votre sauveur n'aura pas à chercher une preuve sociale auprès des autres pour vous aider, mais il agira sûrement. Observer des gens qui nous ressemblent influence grandement nos choix. Souvent, nous sommes les émulateurs du choix des autres, et cette tendance est encore plus forte quand l'autre nous ressemble. Prenons l'exemple des adolescents. Il est clair que la mode qu'ils suivent n'est que l'émulation de la mode des autres adolescents. Les as du marketing l'ont compris depuis longtemps, proposant des publicités manipulées où les gens de la rue sont interrogés sur leur goût pour le produit. Nous avons tendance à nous identifier à ces gens normaux, comme nous sommes par ce fait plus disposés à trouver le produit parfait aussi pour nous. Mais cette tendance à l'émulation a des côtés pervers. Après que le suicide de quelqu'un soit ultra médiatisé, les statistiques montrent que dans la semaine suivante, un accroissement des morts dans des accidents de voiture ou d'avion. Au premier abord, c'est un résultat plutôt déroutant. Pourtant, il semble bien qu'après avoir lu des infos sur le suicide de quelqu'un, une émulation se fasse et que pour certaines raisons, d'autres décident de passer à leur tour à l'acte. Des recherches montrent que chaque première page de journaux consacrés à un suicide tue 58 personnes qui auraient vécu sans cela. On appelle cela l'effet Werther, du nom d'un livre publié au XVIIIe siècle qui avait entraîné une vague de suicides en Europe, par émulation avec le protagoniste. Maintenant, cet effet est significatif auprès des personnes qui peuvent s'identifier avec la victime. Nous donnons notre confiance aux gens que nous aimons et il est facile à certaines personnes de se faire aimer. Souvent, nous sommes plus aptes à faire confiance à quelqu'un que nous apprécions. Un des facteurs est l'attirance physique, qui nous fait paraître la personne plus sympa, plus honnête. Le revers de la médaille, c'est que nous votons pour les personnes les plus attractives aux élections, sans nous soucier de leur message. C'est parce que nous sommes avides de flatterie et que nous aimons les gens qui nous ressemblent, qu'il peut arriver qu'on nous manipule. Regardez un vendeur. Souvent, il utilisera la flatterie sur la couleur de votre cravate, de votre chemise, pour mieux vous inspirer confiance. Souvent, il ajoutera « c'est ma couleur favorite aussi ». Le coup du bon flic et du mauvais est un classique du genre lors d'un interrogatoire. Le suspect est d'abord brutalisé par le mauvais flic. Ensuite intervient le bon flic qui apporte la confiance au suspect, comme un ami, ouvrant de possibles confessions. Enfin, la confiance est souvent le reflet d'une association des gens avec les choses. Prenons l'exemple des météorologues. Certains ont été menacés pour des prévisions météo erronées. Ceci parce que nous associons des prévisionnistes avec le climat que nous constatons. Pour nous protéger d'une possible manipulation, nous devons toujours nous demander comment nous en sommes venus à apprécier quelqu'un. Et est-ce que cela s'est fait en une courte période de temps? Si c'est le cas, cela peut être de la manipulation. Attention. Les gens sont facilement convaincus par l'autorité, mais aussi par les symboles d'autorité. Les humains sont conditionnés depuis l'enfance pour obéir à l'autorité. C'est ce que démontra une recherche de Stanley Milgram qui réussit à convaincre des volontaires d'administrer un choc électrique potentiellement létal à d'autres, simplement parce que c'est une autorité qui le leur demandait. Prenons une infirmière à laquelle un docteur a prescrit un traitement à appliquer à un malade sujet à une otite. Mais supposons que par mauvaise interprétation de l'écriture du médecin, l'infirmière applique le médicament sur les fesses du patient au lieu de l'oreille droite, pas même le patient ne va stopper l'infirmière pour lui demander comment des gouttes sur les fesses vont l'aider à soulager son otite. Pourquoi ? Parce que l'autorité rejette la pensée individuelle. Si nous n'avons pas de preuves tangibles de l'autorité, alors nous utilisons facilement les symboles. Des titres, par exemple, sont des preuves d'autorité très puissantes. Se retrouver devant professeur Intel entraîne automatiquement une forme de respect supplémentaire. Pas seulement intellectuellement, mais aussi physiquement, il apparaît tout d'un coup plus grand. Les habits sont aussi un symbole d'autorité puissant, Milgram a expérimenté son autorité dans son expérience de torture électrique simplement avec le symbole de la blouse blanche et de la planche à clip avec ses feuilles techniques. Les escrocs exploitent en masse ces symboles d'autorité, particulièrement avec des uniformes ou des vêtements de prêtre. L'habit de juge est aussi abondamment utilisé. Mais alors, pour éviter les abus, comment démasquer une fausse autorité? La première chose que vous devez vous demander, est-ce que vous avez réellement affaire à un dépositaire de l'autorité, dans sa manière d'être, son attitude? Deuxièmement, posez-vous la question de savoir si l'autorité a un quelconque intérêt dans sa demande. Est-il vraiment honnête vis-à-vis de vous? Si vous n'en êtes pas sûr, fermez-lui votre porte. J'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques par email à contact@sebastientissier.com. Je suis convaincu que les livres peuvent réellement vous aider à changer de vie, à améliorer votre santé, vos finances, à vous rendre plus efficace, plus productif et même plus heureux. À chaque problème que vous rencontrez aujourd'hui, il existe une solution forcément et il n'y a pas mieux que les livres pour les découvrir. Des milliers d'experts, de professionnels, mais aussi des personnes ordinaires ou de grands businessmen partagent dans leurs écrits leurs petites ou grandes réussites, leurs découvertes, leurs trucs et astuces. C'est dans cette mine d'or que je vous propose de plonger au quotidien avec mes résumés et mes vidéos. Cliquez ici pour recevoir mes prochains résumés gratuitement par email. Chaque jour, je publie une vidéo sur YouTube dans laquelle je partage les meilleures techniques et stratégies découvertes lors de mes lectures. Cliquez ici pour suivre mes vidéos sur YouTube. Ce que vous faites aujourd'hui peut améliorer tous vos lendemains. Sébastien, entrepreneur nomade. N'hésitez pas à partager ce résumé avec vos proches si vous pensez qu'il peut leur être utile.